I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Royce, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afficher, le podcast Mademoiselle, dans lequel on parle cinéma, séries et féminisme. Je suis Alix Martineau, je suis responsable des podcasts chez Mademoiselle, rédactrice pour le cinéma et les séries, mais aussi et surtout votre dévouée hôtesse dans Afficher. Vous avez déjà découvert notre premier épisode de débat thématique sur les téléfilms de Noël, dans lequel on se demandait pourquoi on continuait de regarder des films aussi sexistes à l'approche de la fin d'année. Et comme on est toujours au mois de décembre, aujourd'hui on va continuer sur... cette thématique de Noël, avec un nouvel épisode et un nouveau format, le procès d'un film, dans lequel une consoeur et moi-même allons nous affronter verbalement sur un grand classique de Noël, j'ai nommé Love Actually. Le procès d'un film...
Hein ? L'enfer. J'ai le droit de le dire ou pas ? j'ai le droit de parler avant la fin de cette intro qui est longue comme ma bite ou pas ?
Ouais.
On a le droit de dire long comme sa bite dans ce podcast ou pas ?
Ouais, je pense.
Ah ouais, super.
Mais j'allais te présenter en fait.
Ah ok, j'attends. Je savais pas quand c'était à moi de parler.
Eh bien justement, je vais vous présenter cette consoeur qui va s'affronter à moi, qui va se frotter à moi.
Qui va s'affronter à moi. C'est le podcast où on parle pas tout à fait français hein, aussi.
Ma consoeur qui va se frotter à moi. J'ai nommé
j'en ai toujours eu envie.
La B2O de mon Caris. La queen des uppercuts cinématographiques. La main de fer dans un gant de fer avec un point américain en fer par-dessus. J'ai nommé Kalindi Ramphel, la chef des rubriques cinéma et séries chez Mademoiselle. Quel honneur !
Oh là là !
Mais j'adore ! Quel honneur !
J'adore, j'ai envie que chaque fois que je rentre dans une pièce, il y ait quelqu'un qui me présente comme ça.
Je pourrais t'annoncer comme ça avec un... Kalindi Ramphel !
Le ménestrel au poids d'acier ! J'adorerais, c'est génial. La dame de fer dans un gant de fer avec une main en fer avec un point américain en fer par-dessus. Écoute, ça me va bien, je suis contente.
Eh ben, je suis ravie que ça te plaise. Je vais donc procéder à l'explication un petit peu du procès de ciné qu'on va faire aujourd'hui. C'est une sorte d'octogone sans règles avec quelques règles quand même que je vais vous détailler. En gros, donc on va parler de Love Actually. Ce film, pour moi, c'est un classique parmi les classiques de Noël. Voilà, c'est un film que je chéris de tout mon cœur. Tandis que Kalindi trouve que c'est la pire merde jamais réalisée.
C'est ça.
Voilà.
Dans ses exacts termes, en plus.
Donc, tu incarneras Kalindi l'accusation et moi, je ferai la défense dans le procès.
Tout à fait.
Du coup, on essaiera de départager qui a tort de qui a raison en trois étapes. D'abord l'instruction, ensuite on fera le retournage de cerveau et ensuite...
Retournage de cerveau qui me semble être un terme juridique
tout à fait légal,
exact.
Oui. Exact.
Oui, super.
Bien sûr, c'est le podcast de l'exactitude. L'instruction, donc je disais en premier round, le retournage de cerveau et enfin le jugement.
Boum ! Mais qui c'est qui juge ?
Eh ben, c'est nous deux, tu verras.
T'es sûr que tu vas me laisser juger ta performance ?
Non, on se jugera pas sur la performance, on jugera le film. On lui donnera une peine, comme dans les procès finalement.
Wow.
Donc pendant le premier round dans l'instruction, on fera une mise en état de notre situation face au film, d'accord ? En gros, ce qu'on lui reproche ou ce pourquoi on le kiffe. T'as compris ?
J'ai compris.
Donc du coup, la mauvaise foi n'est pas seulement autorisée, elle est encouragée.
Elle est de mise.
Voilà. Et il n'est pas interdit de clasher l'autre sévèrement pour ses goûts cinématographiques merdiques. Mmh. Voilà. Ensuite viendra le second round, qui lors d'un procès s'appelle normalement les débats. Donc voilà, où ils débattent quoi. Mais nous le qualifierons sobrement de retournage de cerveau, parce que voilà, c'est plus exact.
C'est plus strict.
C'est plus strict. Chacune de nous prendra une scène du film pour servir sa cause, la décrira et la défendra, et tentera de faire dire à l'autre qu'elle a raison. En gros, je dois te retourner le cerveau avec une scène du film.
Si vous n'avez rien compris à cette règle, ne vous inquiétez pas, ça s'éclaircira, l'exercice.
Voilà. Là, on demande un petit peu davantage de bonne foi.
Tout à fait.
Ok. Et enfin, le dernier round, c'est celui du jugement. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur une note à mettre au film, sur 5 étoiles. Il y a le droit aux virgules et tout. Et si notre note se rapproche davantage de la note hallucinée du public, c'est la défense qui gagne, parce que le public est toujours plus sympa. Et si cette note se rapproche de celle de la critique sur Allociné, c'est l'accusation qui gagne.
Très bien.
T'as compris?
Je sais que j'ai déjà perdu, du coup, puisque je sais que les gens ont de la merde dans les yeux et ne se sont jamais rendu compte d'à quel point Love Actually était une énorme bouse. Et je vais dire pourquoi dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, ça sera argumenté. Mais évidemment, puisque j'ai préparé mon intervention.
Tu as l'air très prête pour ta plaidoirie, Kalindi.
Non, mais écoute, jamais aussi prête.
Je te propose donc de lancer Round 1.
Round 1. Fight.
Avant de commencer l'instruction, on va remettre un peu de contexte sur Love Actually.
Bonjour, je suis très content de vous voir. Love, love, love. C'est charmant.
Allô, bonjour chérie. Non, tu ne me déranges pas, non. Vas-y, je t'écoute. Ok, allons-y. Allons-nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui. All you need is love.
On m'avait dit que t'étais sexy. Love is all you need. Love is all you
need. Love is all you need. C'est un film britannique de 2003 réalisé par Richard Curtis, avec tout le casting d'Harry Potter, du Hobbit, un peu de Pirates des Caraïbes, de Bridget Jones et Mr Bean, bien sûr. C'est un film choral, donc c'est-à-dire qui met en scène plusieurs histoires d'amour qui se croisent et s'entremêlent pendant 5 semaines jusqu'au jour de
Noël. Le pitch déjà en soi est une infamie à mes oreilles.
Non, non.
Kalindi, c'est déjà tout ce que je déteste dans Kalindi, le cinéma. J'ai déjà envie de m'enfoncer. Je sais pas si vous vous souvenez de Only God Forgives. Il y a un gars qui se plante ou qui plante à je sais plus quel connard des baguettes à tricoter dans les oreilles du gars. Mm. Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire quand j'entends le pitch de Love Actually.
Je sens que ta plaidoirie sera incroyable.
De bonne foi.
Ouais,
tout à
de
fait.
Bonne foi, tout à fait. Du coup, bah, à l'accusation, l'honneur, Kalindi, c'est parti. C'est quoi ta relation au film? Qu'est-ce que tu lui reproches?
Alors bon, bah, je vais vous planter un peu le décor. La première fois, parce que moi j'ai un cœur, je suis comme tout le monde, et j'ai été enfant moi-même, le savais-tu? Mmh. Alors moi j'ai vu Love Actually quand j'étais, enfin il y a bien longtemps, parce que ça a quoi cette
2003.
Cette connerie. Oui, donc ça fait quand même un paquet ça fait quand même un paquet d'années, ça fait donc 17 ans si je sais toujours compter. Et donc quand je l'ai vu en DVD chez mes grands-parents, et en fait pour moi ça avait un petit goût déjà sucré, le goût de Noël évidemment, parce que je suis comme tout le monde, j'adore Noël, ouais, super. Et ça avait en plus un peu le goût de l'interdit parce que moi à la maison j'avais pas le droit de regarder des films trop d'amour où les gens s'embrassaient, tu vois, genre mon père il m'avait interdit de regarder Buffy contre les vampires parce que dans le générique t'as deux personnages qui s'embrassent et mon père avait vu ça, il avait fait non mais c'est une infamie, jamais tu ne regarderas ça, ma fille reste pure des oreilles et des yeux s'il te plaît. Donc du coup Love Actually ça avait pas été possible. Qu'est-ce qu'il y a?
Bah non, mais c'est ouais, c'est intense quoi.
Ah c'est rigide hein. Mm-mm. C'est très rigide. Et la fois bah tu vois, on a regardé Titanic ensemble avec mon père et la scène où Léo fait sucer ses doigts à Ginette enfin à Rose,
en termes Ginette.
Mon père me disait "Oui, c'est parce qu'en fait juste avant ils ont mangé du miel avec leurs doigts du coup,
il
est ah ouais ouais, on est
à
sur ce niveau là."
La justification. D'accord.
Ah, oui, on
parce que
sur,
moi j'avais une sorte de gêne qui s'installait, tu vois, mais pas non plus d'aller jusqu'à ouais.
Ah si, mon père, il fallait qu'on enlève toute éventuelle notion de sexualité intrinsèque à la scène, tu vois.
Okay.
Enfin bref, du coup, je savais que j'avais pas trop le droit de regarder ce film-là, donc je l'avais regardé chez mes grands-parents qui l'avaient acheté en DVD. Donc c'était le sucre, eh bien de Noël, du pain d'épices, du chocolat chaud, en même temps que ça avait ce petit goût quand même acide du dangereux et de l'interdit. Mmh. Donc ça avait toutes les conditions étaient réunies pour que j'aime. Et à ce moment-là, évidemment, j'étais un enfant inoffensif et donc je n'ai pas compris à quel point ce film transmettait des valeurs dangereuses, sexistes, archaïques. Qui pas trop avec notre esprit des Lumières d'aujourd'hui quoi.
Mais non, mais en même temps c'est un film qui a 17 ans,
parce que j'ai pas alors, le droit de faire ma partie. Ou est-ce que vous m'interrompez toutes les deux secondes? Il me semble que vous devez demander l'autorisation pour me couper la parole.
Votre honneur.
Objection. Et donc évidemment quand je l'ai vu la première fois je me suis dit oh c'est chouette, des gens qui s'aiment, c'est sympathique, mais il y a quelque chose qui m'a dérangée quasiment immédiatement, c'est l'aspect choral. Alors on va dézoomer de ce qui me dérange principalement dans Love Actually, qui est sa dimension sexiste, pour regarder un peu le film dans son ensemble. Et il faut avouer que les films chorales, c'est chiant du fion.
Les films choraux.
Alors, les films de type
chorale, ouais, entre guillemets, je trouve que c'est chiant du fion. Pourquoi c'est chiant du fion? Parce qu'en fait, sur 2 heures de film, donc là, je sais pas combien de temps dure cette connerie, parce que j'ai essayé de la regarder pour c'est préparer le podcast, je me suis fait chier, j'ai arrêté au bout de 40 minutes. Ouais. Voilà, bon, ça m'a fait chier, j'ai arrêté. Et je veux dire, le professionnalisme a quand même ses limites. Je peux pas non plus, j'ai d'autres choses à voir. Beaucoup de choses de Terrence Malick,
déjà,
par exemple.
Articule quand tu dis professionnalisme.
Excusez-moi, parce que j'ai regardé Le Marseillais pas plus tard qu'hier. Et Océane, c'est une personne, regarde ça. Et du coup, depuis, j'ai perdu toute capacité élocutive. Anyway, j'en étais où? Ouais, donc je déteste les films chorales, de type chorale. Je trouve que c'est chiant du cul. Parce qu'en fait, sur 2 heures de film, t'as une dizaine d'histoires. Et sur la dizaine d'histoires, t'en as que quelques-unes très rares qui t'intéressent. Par exemple, on a tous envie de voir ce petit gamin là retrouver sa petite copine et lui avouer qu'il l'aime. En plus, il a perdu sa mère, Bichette, Miskin, tout ça, l'enfer. Donc évidemment, lui, non.
Miskin, tout ça, l'enfer. Une citation de Kalindi. Miskin, tout ça, l'enfer. Faire.
Donc t'es là, bon, lui t'as envie qu'il réussisse à pécho sa go, t'aimes bien un peu l'histoire de Colin Firth, parce que c'est Colin Firth, c'est que tu l'as aimé dans Bridget Jones, enfin, mais sinon, qui s'en fout de l'histoire de Alan Rickman qui veut pécho sa secrétaire, on s'en tamponne le coquillard.
Alors, je suis pas d'accord.
Bon, mais bien sûr, Alan Rickman, il ressemble à... Enfin, non, mais c'est terrible, on a personne, à part toi, personne n'a envie de connaître ça. Et donc voilà, donc du coup ça crée une égalité, enfin même à l'intérieur du film, tu vois, il y a des moments sympas, d'autres moments où tu te fais chier, et en fait ce manque de rigueur dans l'intérêt que le film veut susciter auprès du spectateur, moi je le prends comme on se fout de ma tronche, tu vois, je me dis écrivez bien toutes les histoires ou n'écrivez rien du tout et épargnez à tout le monde ces 2 heures de film. Du coup je déteste les films chorales à l'exception des bons films choraux bien sûr, comme Crazy Stupid Love.
On sait vraiment pas si c'est choral ou choraux, quoi.
On sait pas du tout, du coup on va dire un peu des deux. J'adore Crazy Stupid Love, qui pour le coup est un très bon film choral parce que les histoires finissent par se recouper. Et bah, juste une boucle. T'as pas Crazy Stupid Love?
Mais si, mais en fait, je trouve que justement, Love Actually, ça se recoupe, mais c'est pas non plus obvious, tu vois. Genre, je trouve que Crazy Stupid Love, t'es là. Bon, bah, ok, la chute.
Oh non! Oh, tu n'as aucun cœur!
Non, bah, alors, tu es celle qui accuse Love Actually, qui ose m'accuser de ne pas avoir de cœur!
Toi, t'as pas. Quand on aime Love Actually, c'est pas qu'on a un cœur, c'est qu'on a un cul, ma vieille!
Oh!
Oui,
et j'en ai un aussi!
C'est qu'on a un cul, c'est qu'on pense avec sa braguette! Car vraiment, il n'est question que de ça dans Love Actually, de gens qui font des obsessions et des fixettes sur d'autres gens parce qu'ils ont envie de les baiser. Sortons de l'idée que Love Actually, ça parle d'amour, ça parle de fion, de bite et de chatte, tu vois. C'est tout ce dont parle Love Actually. Alors que Crazy Stupid Love, ah bon, bah ça parle de la même chose, précisément.
Ah oui. On se souviendra tous de la scène de Ryan Gosling où il est, ah oui, torse nu.
Ah. Enfin, tout ça pour en revenir à ce que je disais. Oui, moi, je déteste les films chorales, à l'exception de vraiment... Par exemple, j'adore Collision, j'adore Crazy Stupid Love, donc il y en a qui sont très, très bien réussis. Mais voilà, Love Actually, pour moi... Il y a un problème de rythme, il y a un problème de réal, il y a un problème, ça a très mal vieilli, c'est devenu vieux du fion. En fait, dans ce film, vraiment, toutes les meufs sont soit les marionnettes parfaites de d'hommes qui, malgré eux, sont des bourreaux, soit sont celles qui vont précipiter les hommes vers le désastre amoureux. Donc... En fait, elles sont privées de toute nuance. Elles sont soit soit victimes, soit bourreaux. Il n'y a absolument aucun entre deux. Alors que les hommes ont droit à un peu plus de nuance. Ils ont droit d'être des harceleurs aussi. D'ailleurs, ils ont tous les droits dans ce film. Mais je sais pas. Je trouve que globalement tout n'est plus regardable aujourd'hui. En fait, on ferait plus un film comme ça aujourd'hui de toute manière.
Oui,
ça,
non,
c'est une
ça c'est sûr.
Mais en fait, je comprends pas comment on peut encore éprouver de l'affection pour un film qui glamourise le harcèlement, qui glamourise la masculinité toxique et qui encourage les femmes à demeurer dans des positions de victimes éternelles, tu vois. Donc,
bah c'est là que j'interviens, du coup, oui, pour faire la défense
bien
du
sûr
film de Love Actually. Donc, ce que tu lui reproches, en gros, si j'ai bien compris, c'est le côté film choral,
ouais,
et que c'est de la merde et que c'est sexiste.
Ouais.
Voilà.
Ah, parce que c'est pas assez?
Mais,
tu veux que tu d'autres arguments? Parce que tu me dis
non,
ça, mais si je comprends bien, tu reproches juste au film que c'est de la merde.
Non, mais enfin, voilà, je t'ai beaucoup entendu te répéter, c'est pas... Voilà, moi je vais te parler un petit peu de comment j'ai découvert Love Actually. Love Actually, je l'ai découvert assez tard, puisqu'en 2003, j'avais pas du tout l'âge de regarder ça, j'avais même pas 10 ans. Vois-tu, j'avais 8 ans.
Petite.
Et j'étais toute petite et je l'ai regardé tard, je pense que je l'ai regardé vers 15-16 ans. Et moi, j'ai pas. Enfin, j'ai toujours été élevée dans un contexte plutôt féministe et tout, mais je suis pas hyper déconstruite vite, quoi. Du coup, c'est un film que j'ai aimé parce qu'en plus, c'était, bah, comme tu disais, t'avais un peu l'interdit. Moi, je le regardais pas avec mes parents, tu vois. C'est pas un film, c'est un des premiers films, voilà, d'amour, un peu, ça me fait ça aussi avec 500 jours ensemble, mais on en parlera peut-être un autre jour.
Ah oui.
mais donc voilà, c'était un peu ce truc, c'était mon truc à moi, tu vois. Love Actually, mes parents étaient pas hyper fans. Et du coup, voilà, ça me faisait un peu ma petite, mon petit truc sucré. En plus, tous les Noëls, je pouvais partager quelque chose avec mes amis, parce que, bah, tout le monde regarde Love Actually à l'heure de Noël. Donc, quand tu dis que tu veux regarder Love Actually à Noël, bah, ça te fait un truc en plus. Puis, tu débats sur ton histoire préférée. Oh, puis machin, tu le détestes. Et puis, non, machin, tu les trucs. C'est une histoire du souvenir aussi, Love Actually. Tu vois, c'est un petite guimauve de Noël, là. Quand il fait froid dehors, ça te réchauffe le cœur. Moi, vraiment, c'est des bons souvenirs, tu vois. Donc, à partir de là, déjà, je kiffe. Et moi, j'adore. Les films chorales. voilà, je trouve ça intéressant et j'aime pas quand ça se rejoint de manière trop grossière. Et je trouve que Love Actually, exactement, en fait, ça se croise sans jamais, enfin, ça s'effleure un peu et je trouve ça assez délicat.
Mais c'est parce qu'en fait, personne n'a écrit le scénario.
Ben écoute, Kalindi, il y a quand même.
Personne n'a écrit de chute pour ce film, en fait. C'est pour ça que ça ne fait que s'effleurer.
Mais je suis d'accord qu'il n'y a pas énormément de chutes et pourtant c'est des histoires un peu isolées. En plus, ça traite pas que de l'amour passion, enfin couple, ça traite aussi de l'amour maternel, de l'amour filial, de l'amour entre ce gars, le beau-père du petit gars qui l'aide à passer outre le deuil de sa mère en essayant de lui faire gagner le cœur de sa petite copine.
Attends, c'est son beau-père ?
Oui, c'est son beau-père.
C'est pas son daron ?
Non, il me semble que c'est son beau-père, il l'appelle par son prénom.
Ah, mais moi, j'avais toujours compris que c'était son daron et qu'en fait, il avait été un peu trauma par la mort de sa daronne et que du coup, il avait mis un peu une distance naturelle entre son père et lui. C'est pas son vrai père ?
Mais je crois, attends, mais tu me mets le doute là, du coup, mais il me semble que c'est son beau-père quand même.
What ?
Mais du coup, l'histoire est trop mignonne, tu vois. C'est deux mecs qui se découvrent, tu vois, qui n'ont pas forcément de lien plus que ça, tu vois. Et puis, je sais pas, je trouve cette histoire mignonne, même si c'est pas du tout ma préférée. Mais ouais, et puis même, tu vois, t'as toute l'histoire. Moi, je trouve que justement, l'histoire d'Alan Rickman, Emma Thompson et. Ah ouais, dis donc, y a aucun respect dans ce podcast. Mais en fait, je sais pas, je trouve que c'est des histoires d'amour qui existent.
Ah ouais,
qui semblent.
Est-ce que dans la vraie vie, t'as déjà vu une meuf? Est-ce que dans la vraie vie, t'as déjà vu une nana faire ça à son patron, genre écarter les jambes en disant salut et tout, tu viens la soirée ce soir, en lui montrant clairement sa culotte? Ouais, ok, je l'ai peut-être fait une fois. Mais non, mais en fait, c'est vraiment collé à la meuf une image de prédatrice sexuelle
mais
est ridicule et complètement à côté de la plaque, tu vois.
Pour moi, c'est une exagération. Pour autant, c'est des histoires qui existent, tu vois, les histoires au bureau. En fait, c'était ça que je trouvais intéressant, c'est que t'as des histoires d'amour partout.
Parce qu'elle le harcèle sexuellement, quasiment. Hein. Pardon, excuse-moi.
Je peux faire ma défense
oui,
tranquille.
Pardon, excusez-moi.
Merci. Par contre, je réfuterai jamais le fait que c'est quand même sexiste, parce que il faut le dire, la plupart des comédies romantiques sont sexistes jusqu'à un certain point. Même encore aujourd'hui, il y en a qui sont faites, qui sont extrêmement sexistes. Les films de Noël, j'en parle même pas, les téléfilms de Noël, on en a déjà parlé dans le dernier épisode d'Affiché, moi je ne peux pas les regarder. Enfin, clairement, je peux pas en fait. Ou alors je les hate watch, quoi. C'est vraiment où je pointe tout ce qui ne va pas dedans. Et Love Actually, bah, j'ai un peu plus de mal à le faire parce que je sais pas, il y a un truc, je sais pas, ouais, ça doit être le truc choral. Et puis même, on n'a pas parlé du casting, mais putain, ce casting, c'est un délire,
mais
en
oui,
fait.
Mais oui, c'est pour ça que c'est dommage de mettre un si beau casting au service d'une œuvre si médiocre.
Mais non, moi, je trouve que justement, c'est le casting qui porte tout vers le haut, tu vois, et qui...
Ah bah, c'est clair qu'on avait fait ça avec Jacqueline Ducu et oui. Micheline Monfion.
Ah oui, tout à fait. C'est des actrices très connues. On les embrasse.
Ce film n'aurait jamais eu de succès, évidemment, que c'est le casting qui emporte l'œuvre. Mais je trouve que c'est vraiment ultra dommage, au même titre. En fait, voilà, il y a un autre... Après, je te relaisse la parole vite fait, mais
oui, bien sûr.
Je voudrais juste dire ça rapidement. Je trouve qu'en fait, voilà, le film choral, c'est aussi souvent un plaqué de mille acteurs que tout le monde a envie de voir pour attirer les spectateurs en salle. Et le truc, c'est que t'as l'impression qu'ils ont, les gens ont juste oublié d'écrire un scénario derrière, tu vois. Ce qui fait que même un film comme The Grand Budapest Hotel, alors ça me fait chier de dire ça de Wes Anderson, qui est vraiment un de mes réalisateurs préférés, et j'ai aimé The Grand Budapest Hotel, sauf que j'ai vraiment eu l'impression que c'était des collages, des accolages d'acteurs comme ça les uns à côté des autres pour faire kiffer les gens, pour faire un peu du fan service de tous ces acteurs là et c'est un peu dommage.
Ça peut vite tomber là-dedans, mais je trouve que justement Love Actually raconte des histoires différentes, tu vois, et pour moi il y en a un peu pour tous les goûts. Et justement, ce que je te disais, ces débats avec tes potes, tu vois, t'es là, c'est qui ton préféré, ah ouais, tu l'aimes bien elle et tout, parce que moi je la déteste, je préfère elle et tout machin, enfin tu vois, t'as plein de manières de t'identifier ou non au truc, tu vois. Et moi, je sais pas, Emma Thompson, c'est vraiment
On l'adore,
ma préférée. Et en fait, je trouve que c'est ce destin de femme un peu bafouée, tu vois, un peu humiliée, et qui reste digne, enfin je sais pas, je l'aime trop.
Elle reste pas digne, elle reste victime de sa situation, tu vois. À aucun moment elle se en fait, ce serait cool de voir des meufs se libérer un peu de l'emprise des hommes avec lesquels elles vivent. Et je trouve que c'est ça vraiment qui est dommage, c'est on nous offre aucune alternative, quoi.
Oui, mais c'est... alors justement, je trouve que c'est assez révélateur de la réalité pour le coup.
Sans doute.
Mais pas forcément une inspiration, tu vois, mais c'est un truc qui m'a touchée, genre vraiment, parce que je sais pas, je me suis imaginé des femmes qui doivent réagir comme ça, tu vois, et je sais pas, je trouvais que l'incarnation de ce personnage était vraiment réussie, quoi. Voilà.
Peut-être, non, mais il me faut être de bonne foi également. De toute façon, moi, Emma Thompson, c'est un des personnages que je préfère. J'aime bien sa relation avec Hugh Grant, mais en réalité, il y a même des histoires que j'ai complètement oubliées. Il y a un gars qui part aux États-Unis pour pécho un max de gonzesses, là.
Celui-là, il est atroce.
Celui-là, vraiment, il est hardos du cul, quoi.
Et c'est pour ça qu'il a pas beaucoup de scènes, je pense.
Celui-là, c'est trash ou du cul, quoi.
Ouais.
Donc.
Et puis pour le coup, je trouve ça complètement irréaliste. Enfin, tu vois, c'est une sorte de fantasme du British aux États-Unis, alors que, enfin, ouais, pour le coup, ça, tu vois, moi je décroche complètement de ce genre d'histoire parce que pour moi ça semble pas réaliste, alors qu'il y en a d'autres auxquels je m'identifie vachement plus. Par exemple, le premier ministre qui vient chez la meuf le soir de Noël, ça me paraît réaliste, par exemple.
Bah, tout à fait, ouais.
Voilà, donc je l'attends toujours.
Et on en parlait,
pas notre premier ministre.
On en parlait avant même de commencer à enregistrer ce podcast, un truc qui te gonflait. Donc il y a quand même des trucs qui te gonflent dans Love Actually, il faut quand même le soulever.
Ah, tout à fait, oui.
Notamment le fait que tout le monde pointe du doigt cette nana-là parce qu'on la qualifie de grosse toutes les 5 secondes alors qu'elle fait vraiment un 38, ce qui est assez insupportable. As-tu quelque chose à dire là-dessus, du coup, pour défendre ton film qui fait de la grossophobie?
Non, mais quand bien même elle serait grosse, en fait, c'est pas défendable, tu vois. Mais comme tu disais très justement, Hugh Grant la défend à chaque fois. Voilà.
Enfin, il la défend d'un sourcil. En fait, je veux quand même te admettre quelque chose.
Ah.
Parce que je pense qu'il est aussi nécessaire d'être de bonne foi de temps en temps. Quand on en a parlé hors antenne, tu m'as dit que c'était un peu ta Madeleine de Proust, ce film. Et je peux très bien comprendre ce truc-là, qui est un film aujourd'hui dont on sait qu'il est ou problématique ou nul à chier du cul. Mais quand même que c'est notre petite douceur. Donc je te comprends quelque part.
Oh, merci.
Je te méprise, mais je te comprends.
Je te méprise, mais je te comprends. Merci, Kalindi, de terminer ce round one sur cette belle phrase qui m'a bien niqué ma gueule.
Et mais nous je passons... t'aime comme mon propre enfant.
Moi aussi, je t'aime comme si j'étais sorti
accouché
de ton utérus.
Mais parfait.
Passons tout de suite au round numéro 2, le retournage de cerveau. Round 2, fight. C'est donc le round number 2.
Number 5.
Le retournage de cerveau, mais qui retournera sa veste? On essaie donc de passer...
C'est forcément toi, sinon t'es problématique, ça veut dire.
Ouais, bah on essaie donc de passer dans la bonne foi, l'une comme l'autre, d'accorder des points à l'autre quand elle défend ou défonce la scène de film qu'elle a choisie. D'accord? Kalindi, tu commences?
Kalindi, tu commences?
Kalindi, tu vas au tableau?
Ça m'a fait peur. J'ai toujours détesté, maintenant je me sens bloquée, j'ai très peur.
Comme c'est l'accusation qui commence, je te prie d'entamer ce round avec ta scène.
J'ai choisi une scène dont tu ne pourras jamais avouer qu'elle est bonne. Okay. Évidemment, vous le savez, puisque c'est la scène que vous attendez tous qu'on démonte, c'est la fameuse scène de la pancarte.
J'y vais.
« I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh.
Qui est-ce?
Une chorale de Noël.
File-leur un billet qu'ils nous foutent la paix.
Alors pour un bref résumé, c'est donc ce petit trou du cul qui a filmé la go qu'il aime, qui est la go de son meilleur ami, super prêt pendant son mariage. Eh bien, il va la voir le soir de Noël. Il sonne à la porte. Elle arrive, elle fait ah,
ah, ah. Et on mettra des extraits du vrai film, mais franchement, c'est assez ressemblant.
C'est
hein.
Ça. Ouais, ouais. Bah, globalement, Keira Knightley dans 50% des films. Ah, ah bon, étonnant. Donc le gars est là avec ses pancartes, il y en a une où il dit « je voulais juste te dire pour Noël », enfin je fais un gros résumé, hein. « Je voulais juste te dire pour Noël que d'après moi, tu es parfaite ». Et elle est là « Et parfois elle jette un petit coup d'œil à côté pour voir si son mari est pas en train de répliquer, parce qu'on rappelle quand même que cette femme est mariée dans sa maison et qu'elle se fait intruser et que l'autre…
S'introduit. Bah non, il reste dehors.
Il reste dehors, mais il s'introduit psychologiquement, symboliquement dans son foyer, dans son mariage, dans ce qu'elle a de plus intime. Le soir de Noël, elle est avec son mari, elle partage une dinde à l'intérieur même de son salon. Elle est là en train de manger ses cranberries et lui, il arrive et il lui impose
mais
ça.
Mais
qu'elle
me dit, dans quel monde vis-tu? Tu sais pas que les gens se trompent, que les gens se...
C'est pas moi que tu vas apprendre ça, dans des donzelles. Non, mais excuse-moi d'avoir le cœur pur. Mais là, c'est pas une question de tromperie, j'ai pas fini de toute façon. Et donc lui, il repart après avec ses pancartes, parce qu'en plus, Miskin, il fait genre la vicose. Il repart avec, avec ses pancartes et il se casse. Clopin. Et elle referme la porte un peu émoustillée, quoi. Mais est-ce qu'on peut arrêter de se foutre de la gueule des putains de gens, en fait? On essaie de faire croire que ça, c'est romantique. Ce gars, je vous le rappelle, il n'a jamais parlé à cette femme. Il vient juste la harceler dans son foyer pendant que, je le répète, elle mange sa dinde avec son mari. Qu'est-ce qui est plus intrusif? Rien, à part ma gardienne l'autre jour qui est venue faire ma lessive alors que je lui avais rien demandé. Elle a pris mes clés, elle est rentrée chez moi, elle a fait ma lessive, elle a étendu mon linge. Voilà, c'est intrusif, au même titre que ce que fait Jean-Paul. Là.
Et ce qui est marrant de souligner, c'est que c'est quand même la scène de Love Actually que tout le monde reprend en tant que scène romantique par excellence.
Exactement, ça, j'allais y venir. En fait, ce film, le problème, c'est qu'il romantise des actions qui sont absolument punissables. Peut-être pas par la loi, parce qu'on a encore le droit de venir écrire des pancartes à des gens et leur montrer, mais qui est pas ouf d'un point de vue moral, quoi. Donc cette scène m'a toujours déjà en fait, si on enlève le côté problématique, c'est d'une nunucherie mais atomique. Mais c'est d'une nunucherie atomique. Et quand on ne maîtrise pas la nunucherie, on ne la fait pas. Par exemple, la mièvrerie, il y a certains moments où elle est très bien maîtrisée. Je prends comme exemple quelqu'un que tu adores et que j'adore également, Xavier Dolan. Oh, on se rappelle tous de la scène dans Mommy où tous les acteurs sont dans la cuisine en train d'écouter Céline Dion. C'est d'une mièvrerie totale. Ouais. Mais j'ai jamais chialé ma race autant que pendant cette scène. C'est de la mièvrerie contrôlée, c'est ultra bien écrit, c'est ultra joli, les acteurs sont formidables, c'est esthétique, c'est, tout le monde adore Céline Dion en plus, donc ça fonctionne. Donc ça, c'est de la mièvrerie que j'appellerais maîtrisée. Et puis il y a celle de Richard Curtis qui se contente de nous faire, en plus c'est deux personnages qu'on a quasiment jamais vus en fait dans le film, on les voit 5 minutes en tout et pour tout, donc on a le temps de s'attacher ni à lui ni à elle, donc leur histoire ne prend absolument pas, on entre en compassion avec ni l'un ni l'autre, et du coup le voir débarquer à faire son creepy malsain, eh ben ça dégoûte, quoi. Moi, il me dégoûte, cette scène me dégoûte, elle est répugnante, elle est problématique, elle est nunuche, et elle n'a pas sa place dans un film qui est regardé par des millions de gens chaque année, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Ça va, mais t'es pas trop essoufflée?
J'ai parlé très vite.
Non mais t'es passionnée, quoi.
Non mais ça m'agace parce... Mais en fait je crois, tu sais quoi, je vais le dire, je suis de mauvaise foi parce que ce qui me dérange en ce film, c'est pas qu'il est problématique, c'est qu'il est mauvais. C'est qu'il est mauvais, putain, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on s'emmerde devant Love Actually?
Non,
c'est vraiment une scène devant laquelle on s'emmerde. Excuse-moi, tu aimes cette scène, Alix?
Alors, non, mais ça serait mentir de dire que je l'ai pas aimé, parce qu'en fait, toutes mes copines l'aimaient, tu vois, et que c'était un truc qui revenait, où tu te disais, putain, Mims, quoi. Alors que je sais qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Pourtant, je sais qu'à un moment, j'ai trouvé ça mignon, tu vois. Et c'est peut-être aussi ce pourquoi j'ai eu des relations toxiques par la suite.
C'est possible, vous voyez, ça encourage la toxicité des relations.
Mais oui, sûrement. Mais après, je trouve pas non plus que... Enfin, j'ai du mal à le qualifier non plus de harceleur, tu vois. Parce que du coup, bah, par contre, il débarque dans son intimité et tout, ça c'est clair. Pour le coup, avant, il lui a jamais parlé, tu vois. Il y a juste cette vidéo de son mariage que elle met dans le magnéto sans son accord et que lui, il avait filmé, tu vois. Et que, en fait, lui, un peu, il s'est juré de jamais parler de ce truc parce que c'est la meuf de son meilleur ami et que voilà, il est en crush sur elle.
Bah du coup, pourquoi tu viens avec tes pancartes ?
Mais parce que en fait, elle l'a su, tu vois, et du coup, c'est gênant, et donc je pense que c'est pour résoudre un peu le truc.
Mais en fait, prends ton téléphone.
Ah, mais je suis d'accord.
Décroche ton combiné et dis, excuse-moi d'être un mec creepy. En fait, t'es la meuf de mon meilleur pote. Vas-y, ah, bah, hasta la vista, tu vois.
Je suis d'accord que c'est pas la meilleure façon de faire les choses, mais enfin, voilà, c'est pas. Je trouve pas que ce soit non plus la pire chose qui existe, tu vois.
Non, il y a toujours pire, hein. Évidemment, il y a Megan Is Missing, par exemple, ce film qui cartonne sur TikTok. Il y a beaucoup de choses vraiment bien pires que Love Actually. Le problème, c'est que si on compare toujours au pire, on arrive bien à considérer le mauvais pour ce qu'il est, c'est-à-dire mauvais.
Bien sûr. Non, mais je suis d'accord aujourd'hui pour dire que cette scène est mauvaise. Merci Kalindi, je le reconnais. Non, mais
et s'amouracher de cette scène-là, c'est vraiment s'amouracher d'un rien, parce qu'il n'y a aucune profondeur dans fantasme. L'écriture de ces personnages. Ça demeure du fantasme. Mm. Et en fait, c'est tout à fait ce que représente ce film du fantasme. Ça reste en surface. Ce film est superficiel, il ne traite rien en profondeur, ni les sentiments humains. Et tu disais à juste titre, c'est vrai que ça explore aussi les relations entre un père et son fils, ou un beau-père et son fils, entre un frère et une sœur. Mais non, ça n'explore rien du tout, et c'est le problème des films choraux ou des films chorales, c'est qu'ils n'ont le temps de rien explorer, de rien exploiter jusqu'au bout, parce qu'ils ont 2 heures pour traiter 10 histoires. Donc ce film est superficiel, cette scène est superficielle, et c'est dommage parce que ce sont deux acteurs extrêmement talentueux. Lui, je l'aime profondément, il joue extrêmement bien dans The Walking Dead, dans lequel il a heureusement pour lui un peu plus de contenance.
Merci Kalindi pour cette scène. Je dois avouer que je suis plutôt d'accord avec toi, même si j'ai mes quelques réserves que je t'ai déjà exprimées. Maintenant à moi,
oui,
de te mettre en condition. Alors, j'aimerais là que tu fermes les yeux, tu vois.
Vas-y, je le fais.
Là, tu fermes les yeux.
Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion starting to make out that we live in a world of hatred and greed. But I don't see that. Seems to me that love is everywhere. Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there. Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around.
T'imagines un vent froid et sec qui te chatouille le cou parce que tu te balades dans les rues de Londres, d'accord ? Donc déjà, t'es à Londres. C'est Noël, les rues sont toutes illuminées, il reste un peu de neige de la nuit passée, les décorations ont envahi les magasins, les gens sont sympas, jouent de la musique dans les rues, et il y a des plus à fond qui portent carrément des bonnets de Père Noël. Et tu sens un peu, tu vois, l'air des vacances qui arrive, tu vois. C'est le vrai Noël, comme on n'a pas eu cette année. Et du coup, tu vois, j'ai maté le film pour le podcast, et direct, d'entrée, de voir ces premières images du début, je suis là... Ok, je suis dans l'ambiance. En fait, ce film, il t'ambiance d'un coup, quoi. Et du coup, après, t'as la présentation un peu de chaque intrigue, puisque du coup, on a dit que c'était un film choral. Je sais que tu détestes, mais quand même, t'as des personnages qui sont, dès la première minute, plutôt attachants. Je trouve que tu les vois direct dans leur quotidien et que du coup, tu t'attaches directement à eux. Ils s'aiment, ou pas encore, qui se sont perdus, qui sont sur le point de se déchirer. Enfin, voilà, tu les prends dans une tranche de vie, tu vois, et tu sais pas ce qui va leur arriver. Et puis, du coup, en découvrant ces personnages, tu découvres aussi le casting de Forley, dont j'ai déjà parlé, qui apparaît au fur et à mesure. Donc, on a Colin Firth, Liam Neeson, quand même, Emma Thompson, que j'adore, Martin Freeman, Keira Knightley, Hugh Grant, qui fait son entrée au 10 Downing Street. C'est pas ouf, quand même. Genre, là, à vous, tu peux pas dire que c'est nul, tu vois.
Ah non, mais moi j'aime. Franchement, voilà. quand il arrive là-bas et tout, je suis un peu contente, évidemment. Bah oui, mais moi, je suis contente dès que je vois Hugh Grant. Hein.
Welcome, Prime Minister.
Whoa. I must work on my wave.
C'est le seul point positif du film Coral, c'est qu'il joue sur le casting. Donc évidemment, quand tu vois Hugh Grant et Colin Firth,
mais m'engueule pas, je suis en train de te donner les avantages. Du coup, je trouve aussi que les transitions sont réussies entre les personnages parce que il existe des liens qui sont pas forcément forcés, comme j'en avais déjà parlé. Il y a pas de gros twist dégueulasse en mode ah mais non, c'était la sœur cachée depuis le début, ils se sont roulés des grosses pelles, oh zut. CF Star Wars. Et dans l'eau, t'as une présentation particulièrement réussie. C'est celle de l'intrigue du film porno. Tu te souviens de cette scène ou pas? Parce que ils ont pas beaucoup.
C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment, on l'a oublié en deux secondes, cette scène, quoi.
Mais ouais, mais elle est marrante, tu vois. Je sais pas, je trouve ça
c'est
drôle.
Ta scène?
Non, mais ça fait partie des présentations, tu vois, et je trouvais que celle-ci, elle était...
Mais c'est quoi la scène, là?
Parce que
c'est
la scène d'introduction. C'est la scène d'introduction.
Ah, j'avais pas compris.
C'est Linky Pit.
Ah, c'est Linky. Bah, parle-moi dans un langage que je comprends.
Ah, c'est Linky Pit.
Ok, d'accord, j'avais pas capté.
Et donc,
tu triches un peu, hein.
Ouais, mais j'ai
tu
le droit.
Tu triches un peu.
J'ai le droit, c'est un film choral. C'est un film choral.
Moi,
c'est un film choral. C'est un film choral.
C'est
un film choral.
C'est triché.
C'est les Marseillais dans ce podcast. Et le must, c'est quand même l'accent British everywhere. C'est-à-dire que tout le monde parle avec l'accent anglais. Et il n'y a pas plus sexy que l'accent anglais, la vérité.
Ouais, je suis assez d'accord.
Ah bah, bah, bah.
Ça fait voilà, un demi-point.
Mais non, mais ça te met dans l'ambiance des comédies british pleines de flegme, tu sais, un peu légères, là, comme ça. Ça, c'est un truc des comédies, même romantiques britanniques, que moi, j'adore, tu vois, direct,
mais
ça me...
Tu vois, pour le coup, je suis pas d'accord. Pour moi, Love Actually, c'est pas une comédie british dans son essence, tu vois. Pour moi, vraiment, en fait, le casting est british, en effet, l'accent est british, mais pour moi, ça sent pas l'humour anglais comme on irait le chercher sur, je sais pas moi, pour le coup, du même réalisateur, de Richard Curtis, il y a The Boat That Rocks, je sais jamais ce que c'est. La radio.
Good Morning England.
Good Morning
England.
C'est parce
que c'est un nom anglais en français.
Ouais, c'est ça.
C'est nul.
Donc Good Morning England, je trouve que pour le coup, ça a toutes les saveurs de la comédie anglaise. Tu vois, c'est de l'humour un peu décalé, bien placé, des punchlines au moment où on les attend pas, des personnages qui sont complètement à côté de leur pompe. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'humour anglais. On retrouve un peu dans The Boat That Rocks plein de trucs des Monty Python. Enfin, vraiment, je trouve que c'est savamment réussi. Alors que dans Love Actually,
mais c'est une comédie romantique anglaise.
Bah ouais, mais en fait pour moi c'est une comédie américaine avec des acteurs british, vraiment, tu vois.
Pourtant dans l'histoire de Colin Firth aussi, je le trouve complètement à côté de ses pompes, tu vois, et
il est faussement à côté de ses pompes. Le gars, il est là avec son gros pull, en train d'écrire sur sa machine à écrire. Non mais peut-on arrêter de se foutre de la gueule du monde? Le gars, il écrit sur sa machine à écrire et après il y a ses feuilles qui s'envolent et l'autre, elle se met en slip et elle saute dans le lac. Peut-on arrêter de prendre les gens pour des imbéciles?
Bon, avoue ma scène d'intro quand même.
Mais attends, je l'ai revue il y a quelques jours, je me souviens même plus c'est quoi.
Mais je viens de te la refaire là.
Oui, mais t'es dans la rue, ok.
Et puis après, tu vois toutes les intrigues et tous les personnages et tu vois tout le casting et ça te met quand même de bonne humeur, à vous.
Ah non, non, moi ça met pas de bonne humeur, non. Ah non, non, vraiment, je vois l'intro de Bridget Jones, mais ça te met de bonne humeur.
T'as avoué que quand Hugh Grant arrive au 10 Downing Street, t'étais là, t'étais contente.
Ça fait une histoire, Jean-Michel.
Oui, mais c'est dans la scène d'intro.
Ok,
merci.
Ça, je le concède. Non, mais bien sûr.
0,75 points pour Alice. Eh ben, merci d'avoir participé à ce retournage de cerveau. Maintenant, on va passer au round 3, qui est l'heure du jugement.
Wow!
Final round. Fight.
Durant ce troisième round du jugement, on va essayer de se mettre d'accord sur le nombre d'étoiles sur 5 à mettre au film. Ce sera donc sa peine, quoi, sa condamnation. Si la note se rapproche de celle des critiques sur Allociné, c'est Kalindi qui l'emporte, puisqu'elle fait partie de l'accusation et que les critiques sont toujours pires que le public sur Allociné. Et si la note se rapproche de la note du public sur Allociné, c'est moi qui gagne, puisque je suis la défense.
Ok.
Ça va, ça fait sens?
Ouais, tout à fait.
Alors moi, je propose déjà qu'on mette plus que la moyenne, c'est sûr, à 200%.
Bah toi, tu choisis ta note, choisis la mienne.
Ok. Eh ben moi, je mettrais genre 4,5.
4,5 sur...
Ouais, 4,5 sur 5, ouais.
4,5 sur 5 ?
Ouais, 4,5 sur 5.
Non, alors, excuse-moi, Alix. 4,5 sur 5.
Ouais.
5, tu mettrais 5 à Dolan, par exemple. Donc, tu estimes qu'il n'y a que 0,5 points de différence entre Love Actually et Mommy, toi qui adore Mommy.
Ah ! Bon, tu m'as eu, ok, 4.
Donc, il n'y a qu'un point de différence.
4, 4, en vrai, 4, je pense que c'est mérité.
Ok, bah moi je mets 1,2. Je mets 1 pour le casting et 0,2 pour l'effort.
Ouais, mais faut qu'on se mette d'accord. Ah, du coup, faut d'accord. Que tu viennes vers moi.
Ah, faut se mettre d'accord en plus.
Mais oui, c'est ça, c'est le jugement. Faut
ah, mais je comprends
une condamnation.
Bah 2.
Bah non. Non, mais je pense qu'en vrai, on peut mettre plus de la moyenne, donc plus de 2,5. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à 3.
Mais moi j'avais pas envie de mettre 3 points, un film pareil, enfin Jacotte. Je viens de passer 25 minutes à te dire que c'était infernal.
Oui, mais t'as quand même parlé, t'es quand même d'accord pour dire que
bah,
c'est.
J'aime bien la scène d'intro, j'aime bien Hugh Grant, mais bon, ça fait pas 3 points. Bah,
alors là.
Ah ben attends, mais ma vieille, à l'extrême rigueur, puisque tu adores ce film et que je le déteste, on peut arriver à un juste compromis qui serait la moyenne précise.
Non, mais en vrai, si je suis honnête, je pense que. Dans le fond, tu vois, t'as raison. Genre, je sais que dans le fond, t'as raison. Tu vois, mon cœur saigne, mais dit que tu as raison. Mais, enfin, mon cerveau plutôt.
Comme
mais
quand on cœur... sort avec un mec toxique, c'est exactement la même relation que t'as avec Love Actually.
Putain, mais comment
ça
tu me manipules.
Ça peut être avec ton premier mec.
Tu me manipules.
C'est ce que faisait aussi ton premier mec. Donc,
allez, 2,7. Pour moi.
Ah non, vraiment, je n'irai pas au-dessus de 2,4.
2,7.
Non, je te dis, on est fair play et on fait la moyenne pile poil parce qu'il y a des fois où on va être plus en accord et on aura réussi à mieux s'entendre. Et je pense que ces moments-là mériteront du 2,8, voilà. Mais là, je pense qu'une moyenne précise, vu que nos avis sont très tranchants, se mérite.
Ok. Eh ben du coup, on va voir qui a gagné. La note sur Allociné de la presse. À ton avis ?
2.
3.
3 ?
3 sur 5.
Hein.
Et les spectateurs, 3,9. Donc, on s'approche quand même plus de la presse. Bravo, Kalindi. C'est toi qui as gagné.
Oh ! Merci. Qu'est-ce que j'ai gagné ?
Eh ben, tu as gagné la reconnaissance éternelle de nos auditeurs et auditrices qui pourront aller mettre, eux, 5 étoiles à notre podcast sur Apple Podcast.
Mais d'ailleurs, il faut dire aussi que les gens peuvent donner leur avis.
Mais bien sûr.
N'hésitez pas à vous écorcher dans les commentaires.
Bien sûr, parce que, enfin, il n'y a pas de juge, vous avez remarqué, dans ce procès. Donc, c'est difficile. Ça peut être vous, les juges, et vous pouvez nous dire si, bah, en fait, ce débat vous a donné envie de vomir Love Actually ou de le regarder 40 fois d'affilée. Et vous pouvez lire votre débattante préférée, votre avocate préférée, dans les commentaires d'Apple Podcast, en nous mettant 5 étoiles. Et merci d'avoir été là. Merci, Kalindi, d'avoir participé
à
ce podcast.
C'était un plaisir. Ah, mais râler, moi, c'est mon plaisir number one dans la vie.
Et ben, on te retrouvera sûrement très, très souvent dans les procès.
Avec grand plaisir.
Voilà.
Avec plaisir.
À bientôt. Et à très vite dans un nouvel épisode d'Affiché.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.